Bonsoir mes frères et sœurs,
mes amis.
Oui, nous voulons que Dieu nous parle. Nous voulons que Dieu nous rappelle certaines choses. Alors nous allons lire un texte dans 1 Corinthiens au chapitre 13, où l'apôtre Paul exprime l'importance d'aimer. Cet amour non pas qui vient du cœur de l'homme, mais cet amour qui vient du ciel. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui viennent de Dieu? Il y a des choses qui viennent de nous? Est-ce que vous aimiez avant que vous acceptiez Jésus-Christ? Pas toujours, d'accord, mais on avait de l'amour quand même. Alors dans 1 Corinthiens au chapitre 13, il dit un verset, 13-13 d'ailleurs, qu'il y a des choses qui doivent absolument être dans le cœur d'un homme. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Vous savez, il y a des choses, elles sont secondaires, elles sont importantes, d'autres moins importantes. Mais il y a trois choses qui doivent absolument être dans le cœur d'un homme. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. « Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Et le chapitre 14 commence avec cette parole. « Recherchez l'amour. » Donc c'est un grand débat qui nous est proposé au travers de cette vérité. Trois choses demeurent. C'est laquelle la plus importante? Vous allez me dire, ouais, c'est écrit. D'accord. La plus grande, c'est l'amour. Mais quand même, quelle est, d'après vous, la vertu qui vous préoccupe le plus? Il y a une vertu peut-être qui vous intéresse. Tiens, c'est vrai, moi j'ai une déficience par rapport à l'espérance. Tiens, quelle est la différence entre la foi et l'espérance? Après tout, c'est une vraie question, ça. Beaucoup de gens confondent la foi et l'espérance. Beaucoup de gens. Quand les gens disent « j'espère que ça ira mieux demain », ils estiment que ça fait un peu partie de la foi, ça n'a rien à voir. Et souvent, quand les gens disent « j'espère », ils doutent plus qu'ils n'espèrent. Donc, il y a trois vertus que le Seigneur nous propose ce soir d'analyser et surtout de développer, afin que notre vie soit béni, car je crois que Dieu est béni. Je crois que Dieu est béni. La bénédiction, c'est le bien. Je crois que Dieu fait du bien. Bénédiction, certains, vous voyez, les mots, on a chacun, il met le nom qu'il veut, l'explication qu'il veut. Mais nous avons un Dieu qui bénit, qui fait du bien. Nous sommes dans un texte où tout va mal. Par exemple, l'espérance. Regardez avec moi dans Hébreux chapitre 6. C'est quelque chose qui est important dans le cœur de Dieu. Vous voyez, Hébreux chapitre 6. Alors on va voir des textes sur la foi, sur l'amour et sur l'espérance, et surtout si on est dans cette espérance. Quelle est la vraiment, si on devait résumer l'amour à une phrase, l'espérance à une phrase, et la foi en une phrase. Ça c'est intéressant. Et je sais que vous allez m'aider, il y a des étudiants parmi nous. Hein? L'espérance, l'amour, la foi. Ce texte nous dit que l'amour, c'est la plus grande des choses. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une foi vivante, une espérance glorieuse, mais s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas cette huile dans les rouages. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez, les anciennes montres, on voyait des fois l'intérieur parce qu'on les faisait réparer. C'était, s'il n'y a pas d'huile, même s'il y a de l'amour dans une église, vous voyez, prenons les tables dans une église, même s'il y a de la foi, si les chrétiens ont une foi vivante, les chrétiens ont de l'espérance, mais s'il n'y a pas d'amour, il manque cette huile entre nous, vous voyez, qui met cette douceur. L'espérance, ça nous parle surtout de l'avenir. C'est important d'avoir que notre avenir soit certain. À quoi ça servirait d'avoir la foi dans le présent, en Dieu, si j'ai peur de l'avenir? Vous voyez, l'espérance nous parle de cet avenir qui est certain. Pourquoi? Parce que Dieu a promis qu'il prendrait soin de moi. Et la foi, ça a à voir, bien sûr, avec le présent. Seigneur, je compte sur toi pour tous les problèmes que j'ai aujourd'hui. Donc, vous voyez, le présent, l'avenir et l'atmosphère dans laquelle on vit ces choses. Alors, Hébreux chapitre 6, on le voit, versets 11 et 12, on voit que l'auteur de l'épître, donc, a ce désir. Donc c'est Dieu, en fin de compte, qui a ce désir. Hébreux 6, verset 11. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Et c'est un mot qui revient souvent par rapport à plein de vertus. Comme quoi Dieu ne veut pas nous donner un peu d'espérance. C'est déjà bien d'avoir un peu d'espérance. Hein, c'est bien quand même. C'est bien d'avoir un peu de foi, c'est bien d'avoir un peu d'amour quand même, on peut dire ouais, c'est un début, et c'est vrai, et ne méprisons pas les petits commencements. Mais quand même, quand on voit la progression dans laquelle Dieu veut que nous soyons, il nous parle d'une pleine espérance. Quand on lit l'Ancien Testament, on voit par exemple Élisée qui demande à Élie une double portion. Qu'il y ait sur ma vie, je te prie, une double portion. C'est le cadre de l'Ancien Testament, c'est déjà bien. Et quand on voit Élisée, il va faire le double de choses qu'en a fait Élie. Pourtant, Élie, c'est quand même quelqu'un de puissant. Hein. Mais il va avoir cette double portion. Mais dans le Nouveau Testament, on ne voit pas cette double portion. Les deux morceaux du gâteau, on voit la plénitude. Dans le Nouveau Testament, la venue de Jésus ne fait pas qu'on va recevoir deux morceaux de gâteau. Le Seigneur nous parle de la plénitude. Tout le gâteau. Qu'est-ce que vous préférez? Que je vous donne deux morceaux de gâteau ou tout le gâteau? Eh bien, surtout. Comme ça, vous pourrez le partager avec les autres. Mais c'est vrai que le Nouveau Testament nous parle de cette plénitude. Et je pense que souvent, nous nous sommes privés de recevoir une pleine espérance. C'est quand même impressionnant le nombre de textes dans la Bible qui nous parlent de l'espérance. La Bible dit que quand on était sans Dieu, on était sans espérance. Les plus malheureux de tous les hommes. Que si on n'a pas d'espérance, on est pire que les païens. Et la Bible est catégorique par rapport à tous les sujets, par rapport à ceux qui nous ont précédés, par rapport à ceux qui sont morts. Il dit, mais je ne veux pas que vous soyez comme les païens qui n'ont pas d'espérance à cause de l'ignorance qui est en eux. Ne vous imaginez pas, dit l'apôtre Paul, ceux qui sont morts, il parle même de ceux qui dorment pour expliquer que, vous voyez, leur corps est là dans la poussière, mais ils sont partis au ciel et ils ressusciteront. Alors, si quelqu'un peut dire, non, mais attends, où tu vas là? Je le vois quand on fait des enterrements et qu'on prêche sur l'enlèvement de l'Église, quand on prend Thessaloniciens chapitre 4, il y a les gens, vous savez, des fois, ils sont là, ils ont froid, puis quand on parle de la résurrection des morts, les gens, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il raconte ce pasteur? Peut-être il n'est pas bien. La Bible nous dit que l'homme, il a reçu la vie éternelle. Où il ira au ciel s'il accepte Jésus-Christ? Quelle grâce! Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui croit de tout son cœur qu'au calvaire, Jésus-Christ a versé son sang pour le pardon des péchés, il est pardonné. Il reçoit la vie. Celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Il part dans l'éternité, sans Dieu, la Bible appelle ça des lieux de tourment. Mais celui qui accepte Jésus, il a la vie éternelle. Et l'apôtre Paul dit, mais je ne veux pas que vous soyez comme les païens. Les chrétiens, ils ont de l'espérance. Nous sommes ici pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Et dans les Hébreux, il dit, mais je veux que vous ayez cette assurance, je veux que vous ayez cette grâce, d'autant plus que Dieu prendra soin de nous. Je vous soutiendrai jusque dans votre vieillesse. Dieu s'engage. Nous, on a du mal à s'engager, c'est vrai, franchement. Les hommes ont du mal à s'engager. Vous le reconnaissez? Des fois, on prend un engagement, on a du mal à le suivre, il y a des gens qui oublient. Ah oui, tu es sûr que j'avais dit ça? Eh bien oui, tu l'as dit, tu as même signé, tu es sûr? Montre-moi. Ah oui, tu avais raison. Vous voyez, donc les hommes, bon, à cause de leur pauvreté, ils oublient. Mais Dieu, lui, n'oublie pas. Il s'est engagé à vous soutenir jusque dans l'éternité. C'est pour ça qu'il nous autorise à l'appeler, une fois qu'on est passé par la croix, Père éternel. Moi, quand je dis Père éternel, souvent je suis dans mon bureau à genoux et je dis, Seigneur, je peux t'appeler Père éternel. Je me sens super fier. Super heureux. Je ne sais pas vous, comment vous vivez cette affaire de pouvoir dire à Dieu, Père éternel. Dieu aurait pu dire, bon d'accord, je vous ai sauvé au calvaire, mais vous allez m'appeler, bon maître. Vous ne méritez pas de m'appeler Père éternel. Est-ce que Dieu aurait pu le dire ça? Sérieusement, est-ce que Dieu aurait pu le dire? Ben oui, c'est un problème. Bon, on va rester quand même avec cette distance. Je vous appelle serviteur. Vous m'appelez maître. Est-ce que ça aurait été bien déjà? Ben oui, ça aurait été merveilleux qu'on puisse appeler Seigneur maître. Il ne nous demande pas de l'appeler maître. Il nous demande de l'appeler Père éternel. Ça veut dire que ça va traîner cette affaire. Mais ça ne vaut pas la peine. Que ça ne vous donne pas de l'espérance, que Dieu soit votre Père pour l'éternité. Et nous pourrions développer cette notion d'avenir. Les gens, ils ont peur du lendemain. C'est pour ça que j'ai dit, mais n'ayez pas peur du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, Dieu prendra soin de vous. Vous le croyez, ou vous le croyez pas. C'est pour ça que c'est important que notre espérance soit conjuguée à la foi et à l'amour, parce que l'amour maintient, je vous dis, cette huile dans les rouages qui nous permet d'être dans cette douceur de la vie. Parce que la vie, elle est difficile, la vie, elle est compliquée. Si vous avez peur du lendemain, c'est qu'il y a un problème. Eh bien, demandez au Seigneur de le régler. Oui, je veux pas une espérance de temps en temps en réunion, ça me fait du bien d'écouter un message, c'est super chouette. Non. Je veux une pleine espérance. Et je me tiendrai devant toi. Je recherche, de la même manière qu'il est dit rechercher l'amour, je peux vous dire que si vous lisez la parole de Dieu, vous trouverez de l'espérance. Vous découvrirez de plus en plus d'espérance. Vous lirez la parole de Dieu, vous direz, ah, mais ça, il faut que ça arrive. Voyez, regardez notre société, tous ces hommes politiques corrompus. Ça vous énerve, ça vous irrite, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez, ils sont presque tous corrompus? Bon, vous savez à quoi je pense? Que du temps de Noé, la terre était entière, était corrompue et pleine de violence. Et Jésus a dit, il faut qu'il en soit de même. Il faut qu'il en soit de même. C'est-à-dire qu'il faut que, avant le retour de Jésus-Christ, même s'il y a un réveil, même s'il y a des gens qui se tournent vers lui, etc., il faut qu'il en soit de même. On peut le lire, voyez. Alors vous allez me dire, mais ça donne de l'espérance, ça. Eh bien oui. Regardez. Voyez, quand on voit ces choses, on dit, mais c'est pas possible, les gens, mais c'est pas possible, c'est pas normal, vous vous rendez compte, cet homme de tel parti politique, j'aurais jamais cru que cet homme était corrompu. Eh bien moi, je vais vous le dire, là, ça sera comme ça. Matthieu 24, voyez, verset 37. C'est important, l'espérance, elle n'est pas liée qu'à des bénédictions, elle est liée à des prophéties. Des prophéties qui vous rassurent. Moi, ça me rassure quand je vois ça. Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé, si vous avez lu la Genèse, la terre était corrompue et pleine de violence. Les gens ne pensaient qu'à faire le mal. Arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, mariaient et mariaient leurs enfants. Alors, est-ce que c'est mal de manger, de boire, de se marier, de marier ses enfants? Non, mais on peut ne penser qu'à ça. Et quand on ne pense qu'à ça, c'est pas bon. Vous voyez, il faut penser à son âme. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même. Donc ne nous attendons pas à ce que les gens sans Dieu s'améliorent dans la droiture et dans l'équité. Les gens seront de plus en plus corrompus. Mais les chrétiens, eux, ils peuvent prendre position et dire « Moi, je vivrai dans la vérité », etc. Vous comprenez? Non, ne vous offusquez pas, n'ayez pas peur du lendemain. Le Seigneur, il sait qu'il sera président de la République au mois de mai 2017. Vous inquiétez pas, le Seigneur, il gardera ses enfants, tous ses enfants. C'est ça l'espérance. Quand vous lisez la parole de Dieu, oh Seigneur, merci, il en sera de même. On peut prier, Seigneur, permet que le chef de l'État ne soit pas corrompu. Mais vous allez devoir prier, je vous le dis. Parce que nous sommes dans un monde sans Dieu. Quand on est sans Dieu, on est perdu, on est dans les ténèbres. Quand on est sans Dieu, on est dans le malheur. Et les gens, ils font le mal. Ne les jugeons pas trop vite. Prions pour que dans l'Église, eh bien, les chrétiens soient remplis d'espérance. Les chrétiens viennent dans l'Église et partent chez eux et dans leur maison. Et le cœur rempli d'espérance. Les gens du monde, qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir? Que les chrétiens, ils sont remplis d'espérance. Et c'est valable pour la foi. Augmente-nous la foi. Quand Jésus priait, les apôtres, ils étaient tellement touchés qu'ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Vous vous rendez compte, ils étaient tellement touchés par la façon dont Jésus priait. Et vous rappelez ce que Jésus leur a dit, venez, je vais vous imposer les mains. Venez tous, je vais vous imposer les mains et votre foi va grandir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous rappelez ce que Jésus a dit? Luc 17, donc, les apôtres sont touchés. Ils comprennent l'importance de la prière. Est-ce que vous avez compris l'importance de la prière? Ou est-ce que vous récitez des prières? Ou est-ce que vraiment de tout votre cœur vous parlez à Dieu? Vous vous rendez compte, pour que les apôtres soient touchés par la façon dont Jésus priait. Donc bien sûr, ils font ce que nous devons faire. Luc 17, verset 7, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur leur a dit, je vais vous imposer les mains et votre foi va grandir. Non? Luc 17, verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, donc cet arbre, déracine-toi, plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Donc on voit Le Seigneur ne leur parle pas d'imposition des mains, bien sûr. C'est pourquoi je dis ça. Ce n'est pas magique, la foi. C'est la qualité. Un grain de sénévé, c'est tout petit, petit, petit. C'est comme une pellicule de cheveux. Vous voyez ? Peut-être, hein ? Peut-être plus petit encore. C'est tout petit. Donc le Seigneur ne parle pas de quantité, le Seigneur parle de qualité. Et après, regardez, c'est ça qui est beau, cette foi vivante. Ce n'est pas une foi religieuse. Qu'est-ce qu'il ajoute ? Il ajoute un texte bizarre, le Seigneur. Dont la qualité, deuxièmement, verset 7. Qu'êtes-vous ? Et il y a un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sème-moi et serre-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui avait été ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Donc, il y a trois choses là-dedans. Il y a une question de qualité de la foi, c'est-à-dire la parole. Je respecte la parole, je crois ce qui est dit, ma foi est saine, ma foi grandit. La qualité amène également la croissance. Mais il donne cette petite parabole de ce serviteur qui a travaillé toute la journée, il a obéi, mais il rentre des champs et il doit continuer à servir son maître. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que ce que l'on fait, il faut le faire à fond. Est-ce que vous comprenez ? Il y a une question de fidélité. La foi et la fidélité, c'est le même mot. Il y a une question de continuation dans la fidélité. Il ne faut pas avoir la foi pendant une réunion. Il ne faut pas avoir la foi pendant le temps que je prie. Il y a des gens, vous voyez, quand ils prient, ils sont sérieux, ils ont confiance. On se demande s'ils ont confiance à Dieu ou s'ils ont confiance à la prière. Il n'est pas dit « ayez foi dans vos prières ». Il est dit « ayez foi en Dieu ». C'est pour ça, le temps, c'est une chose, mais on peut prier 3 secondes, 5 secondes, on peut prier 3 heures, 5 heures. Le problème, ça, c'est pas grave, ça. Si on a besoin de prier une heure, on prie une heure. Mais le problème, c'est une question d'avoir confiance en Dieu. Et puis après, d'être fidèle. Vous avez vu la question numéro 9 ? Doit-il de la reconnaissance parce qu'il a fait ce qui lui avait été ordonné ? Vous voulez que votre foi grandisse ? Nous voulons que notre foi grandisse. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Dans l'église où tu m'as placé, dans ma famille. Voyez, la foi est liée à la qualité de la parole, bien sûr, qui grandit, bien sûr. La foi est liée à cette fidélité jusqu'au bout. J'obéis. En fin de compte, la foi est liée à l'obéissance. D'ailleurs, il est souvent parlé de l'obéissance de la foi. Et après, cette humilité. Quand on a fait ce qu'on avait à faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Ça ne veut pas dire qu'on est inutile aux yeux de Dieu. C'est pas du tout ça, puisque Jésus dit, celui qui a été fidèle dans les petites choses, il en aura de plus grandes que celui qui a fait valoir un talent. Oui, même il aura le gouvernement de 10 villes. Oui, on voit bien qu'il y a des récompenses. Mais il y a un état d'esprit. La foi, donc, est liée à la qualité de la parole, à la persévérance dans le service, et également à l'humilité. J'ai fait ce que j'avais à faire, je le fais de tout mon cœur. La foi, elle grandit comme ça, mes frères et sœurs. Et quand Paul dit, il y a trois choses qui demeurent, l'espérance, voilà, qui rend certain l'avenir, la foi qui vous permet vraiment de vivre le présent. Vous savez, c'est merveilleux quand vous, je sais pas, peut-être tout à l'heure, vous allez rentrer à la maison, vous allez rentrer dans votre chambre. Oh, Seigneur, il y a déjà Monsieur Gaud, je prie, je sais pas si le Seigneur, il est là. Je sais pas si ma prière, elle dépasse le plafond. Je l'ai souvent entendu, ça. Je dis, mais vous avez pas lu ce que Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et quand tu sentiras que Jésus est là dans le secret, quand tu le sentiras bien, prie. C'est ça qui est écrit ? Non. Il est dit, prie ton Père qui voit dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est ça la qualité. Je le sens, je ne le sens pas, ça n'a pas d'importance. Je sais que quand je suis seul dans mon petit lieu, c'est pas forcément la chambre, le bureau, le garage, on s'en fiche le lieu, mais je suis seul dans la présence de Dieu, le Seigneur, il me voit. Je le crois. C'est ça la qualité. Pourquoi ? Pas parce que je le pense, pas parce que c'est bien, pas parce que aujourd'hui ça me convient, parce que c'est écrit, c'est comme ça. Une foi qui est liée à la qualité de ce que Dieu dit, une foi qui est liée à la persévérance dans le service jusqu'au bout et à l'humilité. Tu me permets de servir. Seigneur, ça fait 3 ans que je m'occupe de l'école du dimanche. Merci Seigneur. Oui, même si c'est qu'une grâce, je te remercie de m'aider à être fidèle. ça plaît à Dieu, ça c'est important aux yeux de Dieu. Et troisièmement, cet amour, alors cet amour, il faut le demander, il faut le rechercher. On en est tous malheureux des fois de manquer d'amour. Oui ou non ? Ça vous énerve pas des fois quand vous manquez d'amour puis par rapport à quelqu'un ? Allez, soyez honnêtes, ne répondez-moi, je ne vous regarde pas, je vous promets. Dites-moi la vérité, franchement, on n'en est pas malheureux des fois ? Soyez honnêtes. Des fois, il y a des gens, ils sont plus difficiles que d'autres, non ? Il y a des gens qui sont, qu'on appelle aimables, il y a des gens qu'on trouve moins aimables. Eh bien, Seigneur, donne-le-moi de mes ennemis. Ça plaît à Dieu, ça, cet amour. Trois choses demeurent. Seigneur, franchement, soyez honnêtes. Et puis, il y a des moments plus difficiles que d'autres. Seigneur, tu vois, moi, je sais que, je vous le dis en toute humilité, j'ai eu, moi, des difficultés à aimer les Arabes. Parce que quand j'étais jeune, je me suis battu une fois avec un, et ça s'était mal passé, et j'avais développé de la haine. Et même chrétien, vous voyez, comme quoi, même quand on se convertit, c'était quelque chose qui m'a été dur. Et aujourd'hui, je sais que je prie pour eux, et je bénis Dieu, parce que je sais que quand le Seigneur nous visitera, eh bien, les Arabes, ils vont se convertir. Dieu, il aime les Arabes. Un jour, j'ai repris quelqu'un qui priait. Il avait prié, c'était grave. Il priait pour les chrétiens, il priait pour les juifs. Il me disait, les Arabes, Seigneur, tu les as rejetés. Les Arabes, ils sont maudits et tout. Et puis moi, je me suis monté, j'ai dit, écoutez, on va quand même relativiser. Quand Dieu bénit Ismaël, il parle de bénédiction pour les Arabes. Il y a des choses qui nous dépassent au niveau géopolitique, au niveau géographique, tout ça, c'est compliqué. Mais laissez-moi vous dire que Dieu, il sait ce qu'il fait. Seigneur, je veux de l'amour. Si j'en manque dans un domaine, eh bien, je te le demande. Seigneur, donne-moi d'aimer, et Dieu vous le donnera. Si quelqu'un manque de sagesse, mais je veux dire, je pense que ça doit être valable pour toutes les vertus de la Bible, si quelqu'un manque d'amour, qu'il la demande à Dieu, que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande... Mais vous vous rendez compte ? Qu'il la demande à Dieu... qui donne à tous, simplement et sans reproche. Parce que nous, on pourrait dire, oui, quand même, tu manques de sagesse, quand même, c'est grave. Est-ce qu'on pourrait dire, c'est pas bien ? Et Dieu dit non, sans reproche. Parce que Dieu voit quand on demande. Mais par contre, il a dit que celui qui demande, demande sans douter, car celui qui doute, vous voyez, comparable au flot de la mer, il ne recevra rien. Mais on n'a pas douté, cette foi. Cette espérance doit se conjuguer avec cet amour. Seigneur, donne-moi de l'amour. Donne-moi de l'amour. Et vous allez peut-être prier 50 fois, ça ne viendra pas. Ça viendra, et bien peut-être ça viendra la 51e fois. Ça ne viendra pas à la 100e fois, mais ça viendra à la 190e fois. Comment vous avez dit ? Oui, 290. Est-ce que c'est possible ? Eh bien oui, persévérez. Persévérons. Et ces trois vers, et Dieu le verra. Peut-être que ce soir, vous allez rentrer en disant, oui, mais oui, c'est vrai, j'en ai deux, mais là, il y a une qui me manque. Eh bien, on va s'y attaquer. Et le Seigneur, il va nous aider. Le Seigneur, il le dit, je suis ton aide. On est inexcusable. Dieu est là pour nous aider. Que son nom soit béni. On va terminer avec ce verset, justement. Hein, dans Hébreux, chapitre 13. N'oubliez pas que Dieu est là pour nous aider. C'est important, ça. On a un Dieu qui est là. Surtout quand il voit quelqu'un. Bien sûr qu'il y a des gens que Dieu n'aide pas parce qu'ils ne veulent pas de son aide. Il y a des gens qui jettent, qui rejettent Dieu. Mais quand on cherche Dieu, regardez Hébreux chapitre 13, c'est un verset merveilleux. Quelqu'un me dit d'en dire, oui, Dieu a dit à Josué, je serai avec toi. Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Dieu a dit à Jérémie, je serai avec toi, etc. À Isaïe, mais pas à moi. Eh bien, j'ai dit, on va lire alors. Parce que dans le Nouveau Testament, c'est dit à tous les hommes. Hébreux 13, verset 5. Et 6. Regardez ce beau verset, s'il ne vous donne pas de l'amour, de l'espérance et de la foi, c'est qu'il y a un problème. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera... Verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu... Alors regardez, car Dieu lui-même a dit, c'est pas un apôtre, c'est Dieu... Lui-même qui a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Ce verset, apprenez-le par cœur. Le Seigneur est mon aide. Dites-le avec assurance. Vous n'avez pas un Dieu qui est contre vous. Il est avec vous. Il est pour vous. Quand vous obéissez, laissez-moi vous dire que Dieu est avec vous. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. que peut me faire un homme ? Voyez, mes frères et sœurs, quand vous priez, Dieu est avec vous. Il n'est pas contre vous. Quand vous dites, Seigneur, bénis mes enfants, Dieu est avec vous. Ça plaît à Dieu, cette foi, cet amour, cette espérance. Si Jésus a dit, ces trois choses doivent demeurer, frères et sœurs, veillons-y. Et si vous découvrez l'Évangile, découvrez-les également. L'amour de Dieu, vous le découvrirez au calvaire. La foi, vous la découvrirez dans la parole de Dieu. L'espérance, dans chaque promesse. Mais mes frères et sœurs, celui qui a ces trois choses, je pense qu'il est en bonne santé spirituelle. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Et qu'il nous aide, et il nous aidera. Le Seigneur est mon aide. Amen. Vous pouvez tous le dire, le Seigneur est mon aide. Il va m'aider, je suis malheureux parce que j'ai pas assez d'amour, j'ai pas assez d'espérance. Et Dieu te dit, oui, c'est vrai, mais moi je vais t'aider. Alléluia. Je vais mais c'est ça la parole, c'est ça la qualité de la foi. De lire, et c'est moi je surligne ces versets, je les ai appris par cœur, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de certaines notes pour prêcher l'Évangile, parce que ces versets je les ai appris par cœur, et je veux qu'ils soient dans mon cœur, le Seigneur est mon aide. On va lui demander tout simplement de l'aide. Vous croyez qu'il va nous aider ? Il aidera, il va nous aider. Tout simplement, on va terminer cette réunion en demandant de l'aide, simplement et joyeusement, avec assurance. Notre Père, oui, c'est avec assurance, parce que tu l'as dit. Nous n'avons pas d'assurance parce que nous avons fait des progrès. Nous avons de l'assurance parce que toi, de ton côté, tu es pour nous. Nous avons de l'assurance parce que tu es là pour nous aider. Nous avons de l'assurance parce que dans les ruisseaux de Dieu, il y a l'amour, l'espérance et la foi nécessaires et certainement plus que ce que nous en avons besoin. Ces trois vertus, Seigneur, oui, nous allons nous appliquer à les développer et tu vas nous aider. Merci pour ton aide, Seigneur, que dans les jours, dans les heures, dans les minutes qui suivent, que non seulement nous nous endormions avec ces vertus qui augmentent, mais que demain matin nous nous réveillions et que nous puissions de suite les développer davantage. Afin que dans nos maisons, là où nous travaillons, là où nous côtoyons des hommes et des femmes, que ce soit des amis, des bons amis ou que ce soit des ennemis, des gens qui sont contre nous, donne-nous, Seigneur, donne-nous cette espérance, cette foi et cet amour qui fait que nos relations et notre vie est comme de l'huile dans les rouages. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.